Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le 27 janvier 2017, le président américain signait un décret que l'histoire retiendra peut-être comme l'acte le plus radical en matière d'immigration. Surnommé le Muslim Ban, le texte décrétait du jour au lendemain l'interdiction pour les ressortissants de 7 pays musulmans de toute entrée sur le territoire américain. Suspendu par la justice quelques jours plus tard, son entrée en vigueur n'aura été que de courte durée, mais l'affolement provoqué aux frontières et dans les aéroports aura donné une idée concrète de cette vision pour le moins extrême de l'immigration. Alors quel impact sur l'Europe, où le débat est relancé depuis l'arrivée d'un très grand nombre de migrants et de réfugiés. Dérouler des barbelés pour les uns, ouvrir toutes les frontières pour les autres. Difficile de construire une approche consensuelle et dépassionnée en matière d'immigration. Et face à l'urgence, y a-t-il seulement une bonne politique à mener ? En France, le thème est évidemment au cœur de la campagne présidentielle, mais au-delà de la crise des migrants, quelle politique d'accueil pour les étrangers ? Alors quels objectifs pour la politique migratoire ? C'est le débat que nous avons ce soir avec deux invités, à commencer par vous Jean-Thomas Le Sueur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de l'Institut Thomas More et vous êtes co-auteur d'une étude qui est parue récemment en janvier, Proposition pour refonder la politique migratoire française, publiée par le même Institut Thomas More. Et c'est une analyse donc comparative que vous avez menée sur combien de pays ?
10 pays européens.
À vos côtés pour discuter, Claire Rodier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste au GISTI. Le GISTI, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Vous êtes cofondatrice du réseau euro-africain Migre-Europe. Et votre dernier ouvrage, ce n'est pas le seul sur les questions d'immigration, mais le dernier, c'est donc Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. C'était publié l'année dernière, en 2016, à la Découverte. Et puis, pour co-animer cette émission ce soir, je suis avec Isabelle de Golemin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef de La Croix, puisque voilà, donc cette émission, comme chaque premier jeudi du mois, est en partenariat avec La Croix. On peut retrouver dans l'édition d'aujourd'hui du journal La Croix une interview et de Jean-Thomas Le Sueur et de Claire Rodier sur la question spécifique de la politique d'asile, dont il sera d'ailleurs en partie question ce soir. Alors l'immigration, Claire Rodier, sujet par excellence, où il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir une approche qui ne soit pas dictée par l'émotion, on va dire tout type d'émotion, que ce soit la peur d'un côté ou l'empathie de l'autre.
C'est ça, on voit un peu toutes les réactions se manifester, pas tellement dans la campagne électorale d'ailleurs, je trouve.
Vous trouvez que le débat n'est pas vraiment central dans la campagne ?
Je ne trouve pas que c'est central. On a beaucoup plus parlé d'immigration depuis 2015, c'est-à-dire depuis ce qu'on a appelé cette fameuse crise migratoire, pour laquelle je mettrai des guillemets, puisque nous on pense plutôt qu'il s'agit d'une crise de l'Europe et des pays européens face à l'immigration. Mais il est vrai que le sujet est sous souvent chargé de beaucoup de fantasmes qui me semble il est intéressant de relativiser, de dégonfler un peu, surtout quand on regarde un contexte international où finalement la comparaison fait apparaître que l'Europe et la France ne sont en aucun cas assaillies ou envahies comme on peut le laisser penser parfois.
Jean-Thomas Le Sueur, est-ce que vous partagez ces deux premiers constats d'un côté sur voilà, peut-être un thème de l'immigration peut-être pas assez abordé, assez central dans la campagne présidentielle, et puis en même temps un thème qui reste compliqué à aborder sereinement?
Alors, pas assez évoqué dans la campagne sans doute, mais d'une certaine façon ni plus ni moins que d'autres thèmes. C'est quand même une campagne présidentielle qui est en train de se passer et qui n'a pas de structure, si je puis dire, et qu'il n'y a pas de thème saillant. Donc celui-là pas plus qu'un autre, on peut s'en étonner compte tenu de la prégnance quand même de la problématique. Et c'est là où je ne suis évidemment pas d'accord avec Mme Rodier. Oui, il y a une question migratoire majeure dans nos pays, que la décision du président Trump, que vous avez rappelé, si on le veut, mais surtout la crise des migrants de 2015, a remis au goût du jour, mais qui est bien plus lancinante et bien plus ancienne. Il y a bel et bien dans nos pays une angoisse identitaire, une inquiétude identitaire lourde. Il y a bel et bien une fragmentation sociale, il y a bel et bien un problème de communautarisme. Que l'immigration n'est évidemment pas le seul facteur qui fait que ces sujets-là se tendent, mais dont il est, à mon avis, l'un des facteurs majeurs. Il y a la question du chômage, évidemment. Il y a enfin la question de la place de l'islam en France. Tous ces thèmes-là font que la question migratoire est un vrai sujet. Il n'y a pas que des fantasmes. C'est un peu, comme dit Madame Rodier, me fait un peu penser à ce qu'on a dit pendant des années sur le sentiment d'insécurité des Français. Il y a une réalité derrière ce qu'on appelle ces sentiments.
Toujours dans la série des constats, vous dites, Jean-Thomas Le Sueur, que les pouvoirs publics n'ont aujourd'hui qu'une maîtrise limitée des flux migratoires. Est-ce que ça signifie qu'il y a une période où on avait plus ou davantage la maîtrise, le contrôle de ces flux qu'on l'a perdu ?
Oui, assez largement. D'abord parce que, de fait, et ça Madame Rodier l'a dit, on pourra y revenir, depuis une vingtaine d'années, je crois, les flux migratoires mondiaux se sont quand même très très nettement accrus. Donc de toute façon, ça bouge de plus en plus sur la planète. Donc déjà, le flux est important. Par ailleurs, il est vraisemblable, par exemple, que même si on n'a évidemment pas de données sur l'immigration illégale, on est quand même sur des flux assez importants chaque année, en plus, qui viennent s'ajouter à des immigrés illégaux qui sont sur le territoire et qui sont dans une espèce de situation d'entre-deux qui est assez inacceptable. Et puis, enfin, nous avons, avec la construction de l'Union européenne, donné un certain nombre de pouvoirs où on sait, si on veut être dur à l'égard de l'Union européenne, lier les mains sur un certain nombre de problèmes qui font qu'effectivement aujourd'hui le décideur national ne peut plus souverainement et tout seul décider de la politique migratoire qu'il souhaite suivre. Ça n'est pas un mal en soi, en revanche ça veut évidemment dire qu'il faut une politique européenne coordonnée pour les points qui regardent l'Union européenne.
Claire Audier, sur cette question de la maîtrise de la politique migratoire au niveau français.
Oui, non, pendant les 30 Glorieuses, un ministre du Travail disait il faut régulariser les personnes en situation régulière parce qu'il n'y a que comme ça que l'économie du pays se développera. Disons que depuis 1945, le gouvernement français essaye d'organiser la maîtrise des flux migratoires et qu'en réalité, oui, les pouvoirs publics n'ont jamais eu de contrôle, de maîtrise totale de ces flux, des conditions d'arrivée, des conditions de séjour. Peut-être parce que il faut aussi prendre l'immigration comme une donnée qui n'a que très très peu de raisons d'évoluer dans un sens restrictif, encore une fois parce que au niveau mondial on constate qu'il y a de plus en plus de déplacements de population, que ça n'est pas forcément grave, que de tout temps les États, les pays se sont construits sur la base de l'immigration et peut-être que c'est cette approche-là qui manque, c'est-à-dire considérer ce phénomène comme une donnée et non pas comme une menace. Et c'est ce qui explique probablement qu'on s'y est un peu toujours mal pris. Une politique européenne d'immigration, elle existe en réalité. Elle existe sur le papier depuis 2000. Elle implique quelques contraintes pour les États membres, mais pour la France, elle n'a pas changé grand-chose depuis qu'elle est en place. Et voilà, je pense que le gouvernement français a beaucoup utilisé la force de travail immigrée sans se préoccuper du tout de la réglementation qu'il avait lui-même impulsée et fait adopter par le Parlement à une époque où c'était nécessaire. Et finalement, si on regarde l'immigration dans le temps long et non pas en se concentrant sur une époque particulière ou un épisode comme celui de 2015, on se rend compte que l'immigration prend sa place dans le développement des sociétés, de la société française comme des autres.
Isabelle de Golemin.
Oui, Jean-Thomas Le Sueur, pour peut-être prolonger ce que dit Claire Audier, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de crise comme vous le faites ? Parce qu'une crise, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. Et est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'employer ce mot et dire aux gens, de toute façon, il va y avoir de plus en plus de migration, ne serait-ce que parce que on est dans un contexte de mondialisation, qu'il va y avoir aussi des conflits, qu'il y a les immigrés, qu'on dit maintenant tout ce qu'on appelle l'exil écologique. Donc, est-ce que finalement, c'est pas une crise comme ça, mais que c'est pas quelque chose qui est
du point de vue de l'éthologie, vous avez raison, c'est un peu comme la crise économique depuis 2008. Effectivement, une crise qui dure 10 ans, une crise économique qui dure 10 ans n'est pas une crise. Dans ce cas-là, disons qu'il y a un problème de l'immigration. Qui est un problème. D'ailleurs, problème de l'immigration, effectivement, on peut considérer que c'est ainsi parce que, de fait, les flux migratoires à l'échelle mondiale vont croissantes et n'iront que croissants, vous avez raison. Néanmoins, la question migratoire ne se pose pas seule, il faut la poser et même la conditionner à la question de l'intégration. Et là, il me semble quand même qu'on est en train de signer un tel échec, que les signaux sont tellement visibles, que je vois mal comment on peut se contenter de dire que l'immigration doit et va augmenter parce que c'est ainsi, sans se soucier de la manière dont on va, encore une fois, intégrer ces personnes et créer une communauté politique. Parce que le sujet, quand même, c'est le vivre ensemble, si on veut, employer ce vocabulaire-là, et c'est qu'il va bien falloir, sur un territoire donné, c'est-à-dire qu'on ne parle pas quand même de choses abstraites, hein, c'est des êtres humains sur un territoire donné, identifiés, on n'est pas dans l'indistinction complète, ce que ces personnes-là trouvent à vivre ensemble en harmonie et partagent des choses. Des choses politiques, sociales, culturelles et envie de vivre ensemble. C'est cette question-là qui est devant nous. Je pense pas qu'encore une fois ce soit de l'ordre du fantasme que d'alerter et de s'inquiéter d'un certain nombre de tendances communautaires en particulier et de revendications qui compliquent la vie sociale. Il y a quand même 100 signaux qui vont dans ce sens. Donc ça me paraît difficile de se contenter de dire que c'est ainsi et que ça sera toujours ainsi.
Pour préciser un peu, Jean-Thomas Le Sueur, donc dans cette fameuse note que vous publiez en janvier, vous proposez un objectif assez clair: baisser l'immigration légale. Est-ce que c'est une question de principe parce que ce n'est pas la vocation de la France, ou est-ce que c'est une question de moyens avant tout ?
Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je pense qu'il est bon de donner le signal d'une baisse du nombre d'immigrés légaux et de faire comprendre que la France ne peut pas continuer d'accueillir, et encore une fois, pour les intégrer, des masses de population aussi importantes. Hein, on est à plus de 200 000 par an. Pardon. Et par ailleurs, le moyen, de fait, oui, je veux dire, on a beau nous expliquer, par exemple, si on prend le thème de l'emploi, que l'immigration de travail demeure valable parce que les personnes immigrées viennent accomplir des tâches que les natifs ne veulent plus faire, on a du mal à le comprendre quand on voit que le taux de chômage des personnes étrangères est de 20%, là où il est de 10% des personnes, des natifs, si vous voulez. Donc, il me semble que aussi bien, enfin, que des deux points de vue, on peut considérer que c'est un objectif politique souhaitable et, à mon avis, à mettre en œuvre assez rapidement.
Claire Audier, votre ouvrage s'appelle « Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets, aux réticents ». Qu'est-ce que vous répondez à l'inquiétude de Jean-Thomas Le Sueur ?
Je lui dirais que 200 000 personnes, c'est à peu près un chiffre constant depuis 2005, hein, que plusieurs gouvernements, je crois que sous la présidence de Monsieur Sarkozy, il avait été annoncé qu'on allait réduire considérablement ce chiffre. Aujourd'hui, Madame Le Pen, je crois, propose de réduire à 10 000, Monsieur Fillon à 100 000. Je crois que le fait que ce chiffre de 200 000 soit constant depuis maintenant pas mal d'années traduit une réalité, encore une fois, une réalité. Et sauf à remettre en cause un certain nombre de principes, de valeurs, si on parle de principes ici, il sera extrêmement difficile de réduire ce chiffre sans commettre violations des droits des personnes, notamment sur le plan du droit de la famille. On parle beaucoup de réduire l'immigration familiale. En réalité, réduire l'immigration familiale, ça voudrait dire apporter une surveillance à tous les Français qui s'engagent dans des couples mixtes, par exemple. Est-ce que le gouvernement de la France peut décider d'empêcher ses ressortissants trouver un conjoint de nationalité étrangère ? Les règles du regroupement familial n'ont cessé d'être, donc c'est-à-dire entre étrangers, n'ont cessé d'être durcies depuis en gros une quinzaine d'années. On est maintenant à un niveau qui a beaucoup baissé. Hein. Le faire baisser plus encore reviendrait effectivement à remettre en cause la Constitution française, la Convention européenne des droits de l'homme, dont je crois que votre rapport propose de se débarrasser de quelques contraintes jugées excessives. Si on parle de l'inquiétude, demander dans la rue, je crois qu'il y a pas mal de sondages qui ont été faits, de radio-trottoirs qui ont été faits sur ce thème, combien il y a d'étrangers en France, les Français qui ont peur vont vous dire il y en a 3 millions, 10 millions, et puis ceux qui ont au moins peur vont dire 200 000 ou 500 000. Quand je parle de fantasme, il ne faut pas balayer cette expression d'un revers de manche, parce que il y a effectivement une sensibilité qui dépend beaucoup du discours qu'on entend. Et si ce discours vous dit 200 000, c'est trop, à ce moment-là, ça va être terrifiant. Si on explique Si on explique à la population française ce qu'on disait au début, à savoir que l'immigration, c'est normal, qu'elle s'est construite aussi une partie sur cette base, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacements dans le monde, que les déplacements dans le monde, pour moitié, ne vont pas dans le sens qu'on imagine du sud vers le nord, mais se déplacent dans les autres directions, qu'il y a des conflits qui sont proches de l'Europe et que c'est normal que ces conflits, pour lesquels l'Europe d'ailleurs a parfois une part de responsabilité, aient un impact sur les pays européens. Voilà, ce sont des choses qui enfin, encore une fois, il faut dégonfler en expliquant. Et quand on explique et qu'on relativise, il me semble qu'à ce moment-là, les peurs, les angoisses diminuent.
Bon, alors,
diminuer de 200 000 à 100 000, je pense honnêtement que ce serait extrêmement compliqué si on veut garder un cadre qui a été jusqu'à présent celui de la France, qui est issu des principes adoptés au siècle dernier.
Oui, mais quand vous dites par exemple mettre fin au groupement familial, il n'est pas question de ça. En revanche, endurcir les conditions, c'est tout à fait.
Elles ont déjà été beaucoup durcies.
Oui, elles ont été, vous l'avez dit vous-même, sur le regroupement familial, moins sur le regroupement pour raison familiale, c'est-à-dire les Français qui font venir des conjoints de l'étranger, qui sont le double du chiffre du regroupement familial stricto sensu.
D'abord,
on est un peu technique, le regroupement familial concerne les étrangers, alors que l'autre catégorie concerne les Français qui font venir un étranger. Et là, on est à plus de 50 000 par an. Donc là, sur cet aspect-là, ça n'est pas vrai, ça n'a pas été durci ces dernières années.
Mais comment voulez-vous durcir le choix d'un Français ou d'une Française d'épouser un conjoint étranger?
L'épouser, non, mais les conditions qui après vont l'amener à l'accès à la nationalité, ça, vous pouvez le faire. Plein de pays européens sont en train de le faire. On peut le faire, ça. Pardon. La question, et encore une fois, on revient au niveau des principes, c'est en effet de savoir dans quelle communauté humaine on veut vivre. Vous semblez dire qu'effectivement, la question migratoire n'est pas un sujet, qu'elle peut continuer comme ça, que de fait, et vous avez raison, nous avons le continent africain à nos portes, nous avons l'ancien ambassadeur britannique à Benghazi vient de dire qu'il y avait à nouveau 1 million de personnes prêt à franchir la Méditerranée. Nous connaissons les chiffres de la démographie. Évidemment, l'Union européenne est un continent aujourd'hui vieillissant et plutôt frileux, oui, on va pas le cacher, qui est face à un continent plutôt jeune et en cours d'explosion démographique. Donc évidemment, ça crée des tensions. Est-ce qu'on veut néanmoins ouvrir toutes les portes et dire c'est comme ça, ou est-ce qu'on veut assez légitimement, me semble-t-il, préserver pour partie ce que Pierre Manant appelle les formes de vie de nos pays? Moi, j'y suis favorable et je pense que c'est faisable sans déroger à nos principes.
Isabelle de Gaulmin.
Oui, Claire, vous dites 200 000, c'est pas beaucoup. Alors, ceci dit, on n'y arrive pas, ou en tout cas, on y arrive mal. Enfin, pour les gens qui habitent près de Calais, les gens qui habitent dans le nord de la région parisienne, qui aujourd'hui voient ces files étrangers, qui attendent d'avoir une place, qui errent sans papier, etc., il y a quand même des problèmes.
Mais les problèmes, alors je vais revenir à ce que Monsieur Le Sueur a dit tout à l'heure. Il y a un travail en matière d'intégration. Simplement, il ne faut pas faire de l'intégration une condition. Il ne faut pas demander aux gens d'être intégrés avant d'arriver. Là où le travail est à faire, c'est à avoir une politique d'intégration qui permette de faire face, effectivement, à ce que je continue à appeler une donnée objective. Et donc, les habitants de la Seine-Saint-Denis ne seraient pas effrayés par les files d'attente devant les préfectures si les préfectures s'organisaient pour mieux accueillir les étrangers qui vivent en Seine-Saint-Denis. Si on n'avait pas aussi créé des ghettos qui font qu'une grande partie de la population précaire et donc souvent étrangère vit en Seine-Saint-Denis. Mais c'est un autre problème. Vous parlez de Calais. Moi, j'ai vu énormément de gens à Calais qui ne sont pas affectés par la présence des migrants, qui étaient choqués de la façon dont on traitait les migrants.
Il y a quand même l'un et l'autre.
Oui, mais d'une certaine façon, quand on organise... disons que c'est pas manichéen, mais quand on ne s'arrange pas pour ne pas organiser un accueil décent des personnes, le résultat, c'est que effectivement, on va avoir une population qui vit en bidonville dans un pays qui est la sixième puissance mondiale et qui aurait parfaitement les moyens de l'accueillir. On en a d'ailleurs eu la preuve, puisque quand le gouvernement a décidé début 2016 de commencer à démanteler le bidonville de Calais, il a su en quelques mois ouvrir des centres d'accueil et d'orientation que les associations réclamaient depuis très très longtemps, pas forcément dans la forme qu'elles ont pris aujourd'hui, mais en tout cas on a su trouver des places d'accueil, 10 000 places d'accueil en quelques mois. Donc ça n'est pas impossible. Quand il y a une explosion de la natalité dans un pays, on ne dit pas il y a trop de bébés, il faut les virer. On dit il faut créer des crèches et des écoles. Voilà, donc quand il y a une donnée objective qui est un phénomène mondial de mobilité internationale, les États, leur responsabilité, c'est de s'adapter à ce phénomène et à créer les conditions pour que cette donnée nouvelle, oui, nouvelle peut-être un peu, soit prise en compte dans les meilleures conditions possibles et pas dans des conditions qui vont effectivement faire repoussoir pour la population autochtone. Après, et quand vous parlez de cette référence à Manant, moi je ne sais pas, les pogroms qu'il y a eu contre les Italiens au début du siècle ne laissaient peut-être pas penser qu'aujourd'hui la pizza ferait partie de la culture française, que le couscous aujourd'hui fait partie de la culture française. Donc c'est bien une adaptation. On ne peut pas poser des présupposés qui diraient que parce qu'on ne vit pas de la même façon, parce qu'on ne se lève pas à la même heure, parce qu'on ne mange pas à la même heure, on ne fait pas partie d'une société. Oui. Voilà, la société, elle intègre et elle s'intègre aussi.
Jean-Thomas Le Sueur.
Oui, non, et naturellement, personne n'a dit ça. Il va sans dire qu'on est dans la zone des gris, et si je puis dire, et pas dans le blanc et le noir. Naturellement, qu'il n'y a aucune... Vous imaginez bien qu'il n'y a aucune difficulté à l'intégration. Enfin, il y a une condition à l'intégration, c'est aussi celle qu'on traite assez peu, qui est celle du nombre. Assez simplement, c'est-à-dire que il est assez facile d'intégrer un petit nombre dans un plus grand ensemble qu'un grand nombre dans un petit ensemble. Vous avez tout à l'heure cité la Seine-Saint-Denis, il est évident qu'on est arrivé dans certaines communes aujourd'hui à un tel niveau de personnes étrangères ou d'origine étrangère dans ces pays et de départ des Français, des natifs français de une, deux, trois générations, ça a été assez bien étudié notamment par Christophe Guilluy, qu'effectivement, à quoi demande-t-on à ces personnes de s'intégrer ? C'est effectivement assez difficile et c'est un travail de Sisyphe pour les enseignants, par exemple. Nous sommes bien d'accord. Après, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas demander aux gens de s'intégrer a priori. Non. Enfin, oui et non. Oui, au sens où on peut leur demander de manifester un certain nombre de critères objectifs de volonté d'intégration. Et il y en a une qui m'apparaît évidente, c'est la langue. Et je pense qu'aujourd'hui, le degré d'exigence, de maîtrise de la langue, en arrivant sur le territoire ou avant d'arriver sur le territoire, devrait être très nettement augmenté.
Alors justement sur cette question, Jean-Thomas Le Sueur, effectivement, vous insistez sur cette place de l'apprentissage du français dans votre note. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un critère qu'on pose comme préalable à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour, ou est-ce que c'est une politique publique d'intégration, c'est-à-dire qu'on va mettre plus de moyens sur les cours de français pour les gens qui sont arrivés?
C'est là où il faut entrer dans le détail. Ça dépend du type d'immigration dont on parle et du couloir, si je puis dire, dans lequel on est. Il est évident que, par exemple, pour les réfugiés, on ne va pas leur demander a priori et avant de maîtriser le français. En revanche, je pense que les cours doivent être beaucoup plus intensifs et l'exigence doit être beaucoup plus élevée. En revanche, reprenons l'exemple du regroupement pour raison familiale, où là, c'est un projet de vie d'un français qui fait venir une personne ou qui épouse une personne étrangère. Il me paraît légitime de demander à cette personne, dont l'objectif est de s'intégrer sur le territoire national et dans la société française, de maîtriser infiniment mieux qu'on ne lui demande aujourd'hui la langue française. Puisqu'il est évident que, un, c'est l'instrument d'intégration premier par excellence, et que, deux, c'est un facteur identitaire important. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets-là.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Quels objectifs pour la politique migratoire? C'est le débat que nous avons ce soir avec Jean-Thomas Le Sueur et Claire Rodier. Alors il y a effectivement une réalité, une nouvelle donne, comme vous l'avez dit, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est celle de ce qu'on appelle la crise des migrants, hein, donc l'afflux d'un grand nombre de personnes, de migrants, de réfugiés qui sont arrivés en Europe. Est-ce que cette crise, entre guillemets, a révélé quelque part que nos schémas, nos manières de concevoir la politique migratoire, puis aussi les outils et les moyens qu'on avait étaient totalement inadaptés, voire dépassés à une certaine nouvelle réalité, Claire Audier.
Déjà, en parlant de politique migratoire pour parler des réfugiés, on est dans l'erreur, puisque par définition, en tout cas si on se réfère aux principes qui sont pour l'instant inscrit dans la Convention de Genève de 1951, Convention sur les réfugiés, on ne peut pas fixer des quotas ou limiter le nombre de réfugiés, puisque par définition, un réfugié peut demander l'asile à toute personne à droit de quitter tout pays, y compris le sien, et peut demander l'asile pour trouver protection en fonction d'un certain nombre de critères qui sont donc définis par une convention internationale ratifiée par un très grand nombre de pays dans le monde. Donc on ne peut pas parler de politique migratoire.
Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on utilise les outils de politique migratoire
tout à
pour
fait
gérer
les
la question des réfugiés.
On utilise les critères de la politique migratoire pour gérer les réfugiés. En tout premier lieu, on oppose à la politique d'asile de l'Union européenne, sa politique de surveillance des frontières, puisque le renforcement du contrôle des frontières tel qu'il est pratiqué depuis pas mal d'années en Europe peut constituer un obstacle à l'arrivée de personnes qui sont en besoin de protection, voire les entraîner à la mort, puisque il faut rappeler quand même qu'on est depuis la troisième année consécutive dans une augmentation d'un nombre qui était déjà record de morts Méditerranée en 2015.
Il faut quand même plutôt s'en prendre aux passeurs et aux filières d'immigration. Je veux dire, c'est quand même pas les Européens
qui refuse, ah bah si, bien
qui
sûr, parce qu'ils
sont coupables de ces milliers de morts, c'est quand même, ça va un peu vite.
Qui utilise les passeurs? Des personnes qui ne peuvent pas venir par des voies légales. Qui ne donne pas les voies légales? À partir du moment où vous mettez une prohibition, il y a une corruption qui se développe. C'est évident. Les passeurs sont le fruit de la politique de fermeture des frontières. Quand un Syrien aujourd'hui veut demander un visa dans un consulat à Beyrouth, il a de très très fortes chances, on en a beaucoup défendu de cas au Gisti, devant les tribunaux, de se voir refuser ce visa au nom du risque migratoire qu'il pourrait représenter. Alors que s'il était sur le territoire, il aurait 90% de chances d'obtenir le statut de réfugié, c'est à peu près le taux. Donc que fait le Syrien à qui le consulat de France refuse un visa? Il va utiliser des voies beaucoup plus chères, beaucoup plus dangereuses, et il va être obligé de faire appel à des passeurs. Il n'y a pas d'autre solution. Ces gouvernements européens ne donnent pas la possibilité aux réfugiés de revendiquer l'application de la convention qui a été prévue pour leur cas et que ces gouvernements, enfin leur pays, se sont engagés à respecter. Et voilà, les filières et les réseaux de passeurs qui sont extrêmement condamnables, sont le produit d'une politique de surveillance des frontières qui conduit à refuser l'accès du territoire européen à des personnes qui auraient potentiellement le droit d'y obtenir l'asile.
Vous vous souvenez quand même que les rapports du ministère de l'Intérieur allemand à la fin de l'année 2015 estimaient qu'on était à moins de 35% de personnes sur le million arrivé en Allemagne, provenant effectivement des pays en zone de guerre.
Les rapports du HCR montrent que 80% des personnes qui sont arrivées en Grèce en 2015 étaient des personnes venant de pays en conflit ou en guerre et avec de grandes chances d'obtenir le statut de réfugié. Ces personnes, il faut en retirer toutes celles qui sont mortes en Méditerranée avant d'avoir pu accéder à la côte grecque.
Pour vous, tout Malien ou Nigérien peut légitimement prétendre au statut de réfugié.
Mais je ne sais pas, puisque je n'en sais rien a priori.
Alors, c'est
ça le problème. C'est-à-dire que si vous regardez une embarcation qui est à 10 km en mer et que vous décidez que ce sont des migrants clandestins, c'est comme ça qu'on les appelle en général, c'est comme ça que l'agence Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne les appelle, si vous considérez a priori que ce sont des clandestins, vous ne pouvez pas savoir s'il y a un Malien, un Nigérien, un Syrien, un Somalien ou un Éthiopien. Moi, je n'en sais rien. Si vous le savez d'avance, c'est très bien. Donc si vous construisez une politique de surveillance des frontières qui consiste à dire ce sont des clandestins parce qu'ils n'ont pas de visa, et oui, ils n'ont pas pu avoir de visa, donc je les repousse, ça constitue une violation du principe de non-refoulement qui est inscrit dans la Convention de Genève sur les réfugiés.
Alors ce que révèle le HCR, effectivement, le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est que les raisons des migrations sont effectivement de plus en plus complexes et à la fois aussi entremêlées entre les raisons politiques, économiques et puis bientôt de plus en plus climatiques. Est-ce que ça veut dire, Jean-Thomas Le Sueur, qu'il va falloir commencer à penser à reconsidérer peut-être la distinction qui est faite habituellement entre ceux qui fuient les persécutions et ceux qui fuient la misère?
Ah ben c'est très c'est vraisemblable, c'est-à-dire que le réfugié est effectivement celui qui répond à la définition de ce statut est un réfugié, pardon, excusez-moi, est un réfugié politique. La question est de savoir s'il faut élargir ce statut, si effectivement il faut créer un certain débat en cours, un statut de réfugié climatique. Et après celui qui fuit la misère ou la difficulté de la vie, là celui-là je vois mal qu'on puisse imaginer lui donner un statut après qui le protégerait a priori, parce que sinon bel et bien de fait près de la moitié de la planète pardon vivant sous le niveau de pauvreté, ça fait quand même beaucoup de monde qui pourrait prétendre à ce statut. Donc ça me paraît compliqué. En revanche, qui est aujourd'hui à réfléchir clairement sur les conventions internationales et la définition des statuts qu'on accorde à ces personnes, ça me paraît une évidence.
Isabelle de Golemans.
Oui, Claire Audier, quand vous dites qu'il faut finalement en finir avec la prohibition, vous n'avez quand même pas peur que si on ouvre les frontières, on va avoir un afflux, on va créer un appel d'air, et là du coup on va déséquilibrer notre pays.
Vous savez, quand on a, au moment de la construction européenne, à l'époque où l'Espagne et le Portugal ont été intégrés dans ce qui s'appelait à l'époque la communauté économique européenne, les États membres du noyau ont souhaité différer l'accès des personnes, donc on les a intégrés pour ce qui était des marchandises, des biens et des capitaux, et on a dit pas les personnes, sinon il va y avoir une invasion d'Espagnols et Portugais. Et en fait, au bout d'un an, ils ont renoncé à ce délai de transition en s'apercevant que le fait d'être intégré dans un espace économique qui permettait un développement national, finalement, avait un effet assez immédiat, y compris sur la mobilité de ces populations. Non, mais on pourrait. Non, il n'y a pas de marché commun. Mais si on réfléchit, et moi je me replace toujours dans une perspective internationale, je n'arrive pas à penser la migration au niveau français, excusez-moi, ça me paraît complètement incompatible. Pour moi, la migration, par définition, c'est prendre en compte ce qui se passe au-delà des frontières de la France. Si on se met dans une perspective internationale avec cette évolution absolument inéluctable, et à mon avis c'est pas dramatique, ça veut peut-être dire repenser les rapports entre ce qu'on appelle globalement le Nord et ce qu'on appelle globalement le Sud, pour qu'il n'y ait pas de tel déséquilibre. Moi je veux bien que les réfugiés, alors une précision, la Convention de Genève ne parle pas de réfugiés politiques, les aspects politiques sont une des persécutions prévues par la Convention de Genève, il y en a beaucoup d'autres, le champ est déjà beaucoup plus large pour obtenir le statut de réfugiés. Mais je pense que les causes entremêlées dont parle le HCR, c'est une réalité qui est de plus en plus vérifiée. Une sécheresse aujourd'hui qui pousse une partie de la population de la campagne vers les villes dans un pays africain est rarement le fruit de la fatalité. C'est très souvent, regardez ce qui se passe dans les deux Soudans, la crise de l'eau n'est pas une crise juste de l'eau. C'est pas parce qu'il manque de l'eau, c'est une crise qui est entraînée par les conflits locaux. Donc les causes entremêlées sont absolument évidentes, et on ne peut pas considérer qu'on va continuer à se barricader comme on veut le faire, comme on y arrive très mal d'ailleurs, en laissant se développer des inégalités croissantes. Alors pour le coup, regardez les données du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, regardez les données qui sont fournies par l'ONG Oxfam, qui montrent que les différences de niveau de revenus entre pays s'accroissent de plus en plus entre les pays industrialisés et les autres. Et on ne peut pas imaginer toute donnée égale par ailleurs, qu'on va continuer à avoir une politique qui nous permettrait de nous barricader derrière ce qu'on appelle de temps en temps une forteresse, derrière Frontex, sans prendre en compte cette réalité. Je pense que c'est pas seulement une question de respect des droits fondamentaux, elle est très importante pour moi. C'est simplement une question de survie de notre planète.
Alors, dans le cadre de la campagne présidentielle, nous diffusons chaque soir la vision l'un des candidats à la présidentielle. En l'occurrence, ce soir, nous avons choisi de vous proposer d'écouter la vision de Nathalie Arthaud en matière de politique migratoire.
Ce qu'on voit, c'est que l'Europe, et en particulier les dirigeants français, mènent une politique honteuse, une politique criminelle en fermant les frontières. Parce que on voit que ça conduit à toujours plus de morts. Tous les jours, il y a des naufrages avec des enfants, des femmes, des hommes qui meurent en essayant de mettre un pied sur en Europe tous les jours. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, c'est des survivants. Et que font-ils? Eh bien, on les condamne à des marches forcées, on les parque, on les condamne à survivre dans des cloaques infâmes comme à Calais. Donc nous, nous disons qu'il faut ouvrir les frontières. Oui, il faut ouvrir les frontières, il faut les accueillir. Et quand on nous explique qu'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas vrai. Des moyens, il y en a pour... vous savez, il y a des milliards qui sont dilapidés dans la spéculation, dans des caprices de riches. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc oui, il faudrait les accueillir. Donc en fait, il y a une condition commune et un sort commun, je crois, entre tous les laissés pour compte que sont les travailleurs et que sont les migrants aujourd'hui. Et il faut faire cause commune.
Et Thomas, Jean-Thomas Le Sueur, pardon, est-ce que ouvrir les frontières, ce serait pas moins utopiste finalement que ce qu'a pu faire Donald Trump aux États-Unis, à savoir pour le coup fermer totalement les frontières, bon, à certains pays certes, mais...
Encore une fois, je pense pas qu'il faille ouvrir les frontières, ni naturellement, je le redis, fermer les frontières. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre et qu'aujourd'hui, l'état sociopolitique de notre pays réclame qu'on réduise la voilure. Après, il va sans dire, et je rebondis sur ce que disait Madame Brodier tout à l'heure, oui, l'autre pendant d'une politique migratoire intelligente, c'est le co-développement. C'est en tout cas d'essayer, alors là, je reconnais que c'est un chantier pharaonique et que pour l'instant, depuis 60 ans, on n'y est pas réussi. C'est quelle bonne politique de développement, sans doute pas ce qu'on a fait jusqu'ici, pour que les pays sources d'immigration, et je pense naturellement compte tenu de notre position géographique à l'Afrique, aux deux Afriques, hein, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, puissent connaître enfin les chemins de développement qui permettent à leur population de se voir un avenir chez eux, à leur jeunesse de se former chez eux ou chez nous, et ensuite de contribuer au développement de leur pays. Donc voilà, donc évidemment c'est une recherche d'équilibre, il y a, je le redis, pas de situation parfaite, il n'y a pas de tout blanc, pas tout noir, je pense qu'on est encore une fois dans une gamme des gris, et qu'il faut réussir à mettre le curseur là où il convient. Donc oui, il y a une politique de co-développement refondée, renouvelée. Il faut arrêter d'ailleurs, pour connaître un petit peu l'Afrique, de parler aux Africains que d'immigration. Pour autant, il faut aussi leur en parler. Il faut aussi leur donner les clés de la maison. Discuter avec un homme politique africain qui est assez intéressant, Robert Dussek, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères togolais, qui est un ancien universitaire, qui était en France, qui a un vrai discours vraiment intéressant sur la manière dont la jeunesse africaine et les élites africaines doivent se saisir des leviers qu'ils peuvent avoir en main pour le développement de leur pays. C'est avec ce genre de personnes qu'il faut, à mon avis, inventer un avenir en commun et dans l'intérêt des deux parties.
Isabelle de Golemin.
Oui, moi j'aimerais savoir si pour vous, finalement, depuis le début de cette émission, vous parlez du problème de l'immigration. Est-ce que ça peut être aussi une chance pour la France ?
Oui, elle l'a été historiquement et elle n'a aucune raison qu'elle ne le soit plus. Bien sûr, ça peut être une chance pour la France. Évidemment que une identité, elle est fluente, mouvante, on n'est jamais fixe et qu'elle subit des influences et qui peuvent être évidemment parfaites, mais extrêmement enrichissantes, que ce soit sur le plan culturel, musical ou le plan économique et social, etc. Bien sûr, je pense.
Alors comment vous régulez entre une chance et un problème?
Ah ben ça, c'est l'art du politique, c'est l'art du politique qui est quand même de faire avec le réel et, si je puis dire, de pousser la boule un mètre plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, la situation du pays exige, encore une fois, que l'on soit plus restrictif. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ou 15 ans.
Claire Rodier, sur la question du co-développement, c'est ce que vous abordez également dans votre livre. Vous dites que c'est une illusion, on ne réduira pas l'immigration par des politiques de co-développement. Pourquoi ?
Je pense qu'il ne faut pas, lier en tout cas la question du développement et de l'immigration, qu'il ne faut pas penser pour les Africains sur ce qui est mieux pour les jeunes Africains ou ce qui est mieux pour telle partie de la population mondiale. Plutôt que d'ouverture des frontières, moi nous parlons de liberté de circulation comme un objectif pas du tout utopiste. La preuve, c'est que un bon tiers de la population mondiale jouit de cette liberté de circulation. Et et les deux autres tiers, on considère, alors ce tiers qui jouit de la liberté de circulation, je parle des sociétés développées, des pays occidentaux, pour qui le passeport est une formalité à obtenir et les visas aussi. Et il se trouve que c'est les gouvernements des pays de ces populations-là qui décident que les deux autres tiers de la population mondiale doivent faire ceci, doivent se développer comme ça, ne doivent pas bouger, doivent travailler chez eux et pas ailleurs. Voilà, nos jeunes sont très mobiles, C'est aussi c'est une question
alors,
d'égalité
en parlant,
aussi.
Vous m'offrez une transition vraiment toute trouvée en parlant de jeunes mobiles. Je voulais vous parler de Robin Madier. Il vient de passer justement 2 ans sur les routes. C'est une autre forme de migrant. Il en a tiré un album autoproduit. Ça s'appelle Rockin' Robin. Le hasard a voulu qu'il soit notre 10 millième follower sur Twitter. Et alors, c'est ainsi que nous avons découvert sa musique et nous voulions vous en faire écouter 30 secondes ce soir.
They said, before you go, son, tell him goodbye. They don't know why. Instead, said I won't be long.
Robin Madier, Rock in Robin, pour terminer cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Thomas Le Sueur, je rappelle, délégué général de l'Institut Thomas More, d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous, Claire Audier, je rappelle, Juristo, Gisti, le groupe d'information et de soutien des immigrés, les références de vos ouvrages, notes sur notre site internet. Et merci également beaucoup à vous, Isabelle de Gaulman, d'avoir co-animé cette émission avec nous. Je rappelle donc que cette émission était en partenariat avec La Croix et qu'on peut retrouver un débat sur la question de l'asile politique dans les pages du journal de ce jour. Réécoute, podcast, commentaire sur franceculture.fr. Du grain à moudre, une émission préparée par Antoine Tricot, Fanny Richer, Céline Leclerc, Cyril Baer et Louise Fuseau. Réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son YouTube Hack Vego Lopez. Pardon. On se retrouve demain pour le club des idées au grain à moudre. Dans quelques instants, c'est ping-pong. Mathilde Serrel, Martin Kenéens.